Session Amitié Contemplation, Père Philippe, 2 juillet 1997, Saint-Jeudard, seconde conférence.
Alors, une première question, une distinction. Quelle différence faites-vous entre l'amour d'amitié, l'amour et l'amitié? Et distinguez-vous l'amour d'amitié et l'amour conjugal? Alors, pourquoi la connaissance que j'ai de l'ami en l'aimant est-elle la plus objective et la plus subjective?
Ah, ça c'est intéressant et important à souligner, parce que cette distinction objective et subjective, que toutes nos connaissances sont vitales. La vie est toujours subjective. La vie, puisqu'elle est immanente. Et en même temps, elle est objective dans le sens qu'elle est déterminée dans tel ou tel sens. Elle est déterminée indépendamment de l'aspect vital. Quand je regarde quelqu'un, ce quelqu'un ne fait pas partie de ma vie. Subjective des choses, une vision objective des choses. Vous voyez bien ce que vous voulez dire. Quand vous dites ceci est objectif, vous voulez montrer par là que de fait ce que vous dites correspond à une réalité. Au plan politique, l'électricité qui a augmenté beaucoup. Le climat dans lequel on vit est un climat qui favorise énormément cette subjectivité. Et on a une peine énorme de retrouver une objectivité. De sorte que la question était... Maintenant, est-ce que vous voulez...
La suivante ou...
Non, celle-là.
Pourquoi la connaissance que j'ai de l'ami en l'aimant est-elle la plus objective et la plus subjective ?
Alors, vous voyez, la subjectivité, quand j'aime l'ami, je sais qu'à son égard, puisque je l'aime, je mets en premier lieu tout ce qui est positif. Et en second lieu, les petites limites que je connais, que tout le monde connaît. Et puis je cache des quantités de choses que je connais trop bien. De mon ami. Mais dans tout amour d'amitié, la subjectivité domine. C'est à travers l'amour de mon ami que je vois mon ami. Et donc, par le fait même, j'ai un a priori pour lui affectif. Je vois d'abord ses qualités. Ça, c'est très bien. C'est comme ça que je dois voir mon ami. Autrement, je ne serais pas mon ami. C'est parce que je l'aime que je découvre des quantités de choses que les autres ne voient pas. C'est parce que je l'aime que je mets en pleine lumière ses qualités. Et que ses défauts, ses limites disparaissent un peu. On devrait toujours être comme ça on vivrait dans un climat de confiance. Quand je sais que celui qui est à côté de moi voit avant tout mes qualités, ça ne me gêne pas qu'il est à côté de moi. Tandis que si je sais qu'il voit en premier lieu tous mes défauts, pas trop près. On n'a pas envie qu'il soit vrai. Parce qu'il regarde tout avec une loupe. Alors il voit tout avec une difficulté au courant.
Mais est-ce que c'est encore vrai de ne regarder que les qualités de l'ami et de pas de mettre de côté ses défauts ?
Vrai ? De quelle vérité ? Vérité pratique. Vérité pratique. C'est vrai que quand je regarde un ami, je dois avoir d'abord ses qualités. Je compte sur lui. Il me défend, il m'aide. Ah, il regardera les qualités. Il s'en regarde. Vivre ensemble parce que des deux côtés on regarde en premier lieu les qualités. Je suis en retard, mon ami sait que mon retard n'est pas du tout parce que je méprise, parce que j'ai des bris. Il mettra ça en lumière, donc il dira quelque chose de vrai, mais il y a aussi qu'il aurait pu faire un petit peu plus attention pour ne pas être en retard. Ça, on ne le dit pas. Alors quand c'est trop gros, ça ne passe pas. Et on sait très bien, tu dis ça parce que tu es son ami. Alors il y a un déséquilibre qui se fait par rapport à l'objectivité. Et alors on dira que l'amour rend aveugle. Ça se dit, hein. L'amour rend aveugle. C'est pas vrai. L'amour permet de voir plus profondément les qualités et d'avoir le souci de mettre un tout mauvaise réputation. Je suis là pour lui dire, fais attention. Quand tu fais ça, tu vois, tu te trahis toi-même. Tu te fais mal. Et c'est là où vous voyez la souplesse de la vérité. Hein. C'est très souple, c'est pas rigide comme ça. Hein. Surtout quand vous voyez le caractère de quelqu'un. Quand vous devez donner des renseignements sur quelqu'un. Ben quoi, je dois donner des renseignements sur quelqu'un que je connais très bien.
Vous dites que l'amour rend libre, mais aussi vulnérable et relatif à l'autre, n'est-ce pas contradictoire ?
Cela n'était pas contradictoire. Ouais.
Que l'amour rend libre et en même temps il rend vulnérable et relatif à l'autre.
Ça me rend très fort.
Alors, quelle est la place de l'amour de soi dans l'amour d'amitié? Et quelle est la différence entre l'amour de soi et l'orgueil? Qu'est-ce qu'on aime en soi?
C'est Aristote qui dit ça. Aristote dit que pour aimer les autres, il faut s'aimer. Il faut bien comprendre ça. C'est une affirmation qui est très juste. Parce que si on ne s'aime pas ordinairement, on a beaucoup de peine d'aimer les autres. On n'est pas du tout épanoui. On est tout entier replié sur soi. Et si on est tout entier replié sur soi, on a beaucoup de peine d'aimer. Et aimer, c'est d'aller au-devant. C'est de rencontrer l'autre. Si on est déjà très encombré par nous-mêmes, et qu'on est tout le temps à se tâter le pouls, par crainte, par manque d'amour, par manque de confiance, on a beaucoup de peine d'aimer, tandis qu'au contraire, si on s'aime bien, on sait que quand même, on n'est pas plus bête qu'un autre. Et quand même, dans certains domaines, on peut dire qu'on connaît bien les choses. Ça nous donne une sécurité, ça nous donne une force. Et l'amour nous donne cette sécurité, cette force vis-à-vis de nous-mêmes. Et les premières fois où on doit parler en public, faire un coup, ça monte toutes les 3 minutes. C'est ce que ça doit être rasoir. Ce que je dis, c'est pas très drôle. Quand on commence à avoir l'habitude, c'est rien. On s'arrête, on dit, mais ce n'est pas le moment de regarder l'heure. Ça va arriver, ça, de dire ça. Alors ça, ça fait beaucoup de calme. Personne et ne s'aime pas beaucoup. et de la classe. Tu es un imbécile, qu'est-ce qu'on fera de toi? C'est très mauvais de dire ça à un jeune, parce que ça reste. Et alors après, il n'ose plus se montrer. Parce qu'il est sûr d'avance d'être un imbécile. Non, c'est pas très drôle de savoir qu'on est un imbécile. Au milieu de gens intéressants, au milieu de gens intelligents. Et quand dans son enfance, on a entendu tout le temps des pères et des mères qui vous disaient « Tu es un imbécile. Tout ce que tu fais, tu le rates. Tout ce que tu prends dans tes mains, ça se casse. » Il suffit à ce moment-là de prendre n'importe quoi et le casser. Hein. Parce qu'on sait que par avance, on casse tout. Mauvaises qu'on a subies et qui mettent en nous des complexes. C'est ça le complexe. Si on a gardé soigneusement tous ces jugements négatifs et ces jugements négatifs pèsent lourdement sur nous et nous empêchent de nous aimer. C'est là quelque chose de dangereux. Vous voyez, s'aimer soi-même, ce n'est pas de l'égoïsme, ce n'est pas du tout de l'orgueil. S'aimer soi-même, c'est bien. Et c'est même nécessaire, condition sine qua non, pour aimer les autres. Et pour pouvoir avancer, pour pouvoir croître, pouvoir aller de l'avant. que l'amour nous fait lutter contre l'orgueil, contre toute espèce d'orgueil. Il nous fait lutter pour que on aime quelqu'un qui nous aime. On aime celui qui est devant nous. Et on veut qu'il passe devant nous. Dans l'amour, c'est comme ça. Tandis que dans l'orgueil, c'est l'inverse. On ne veut jamais que quelqu'un qui est à côté de nous passe avant nous. On le maintient à l'ombre. On ne veut pas en parler. On ne fait pas de propagande pour lui. Parce que il pourrait nous faire du tort. Il pourrait nous mettre après lui. On ne veut pas ça. L'orgueil, c'est la chose la plus terrible. Parce que c'est par orgueil, souvent, laisser les autres passer devant nous, mettre en lumière les qualités de l'autre. Par orgueil, on veut toujours, ce que je dis, être premier, que les autres nous soient relatifs, mais que nous ne soyons relatifs à personne.
Alors vous avez parlé d'une double finalité de l'homme, l'amitié et la contemplation. Est-ce que l'art ne peut pas être aussi pour l'homme une certaine finalité, surtout dans le monde actuel où il a une place si importante? Est-ce qu'il n'est pas un certain absolu aussi?
C'est vrai, et je maintiens qu'il y a deux finalités pour l'homme au plan humain et strictement humain. Et verrons ça demain. Mais je peux contempler aussi des réalités qui ne sont pas aussi parfaites. Des objets d'art. Des réalités artistiques. Je peux les contempler. C'est-à-dire, je peux fixer mon regard, m'arrêter, et les regarder, et les contempler. Mais, au sens strict, c'est une personne humaine, ou une personne divine, supra-humaine, que je contemple. C'est une personne bonne, que je contemple. Et une personne que j'aime, que je contemple. Par l'amour, j'arrive à la contemplation. Je crois qu'il n'y a pas de contemplation sans amour. Or, l'art, c'est ou moi, ou quelqu'un de plus artiste que moi, qui a réalisé quelque chose. moment, il m'aidera. Momentanément, je serai heureux de regarder ce très bel objet d'art, cette très belle réalisation.
Qu'est-ce qui fait qu'une personne est capable, comme le grand chêne, d'être un grand vivant et de créer son milieu en rayonnant autour de soi ?
jamais on a acheté un de ses tableaux. Donc il s'accumulait chez lui. Et un beau jour, il en avait trop. Alors il a dit, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de les brûler. Alors, j'ai brûlé 300 de mes tableaux. Petite fortune, hein, 300 de mes tableaux. Et à ce moment-là, il m'a dit, en voyant brûler mes tableaux, je me disais, on dira, Rouault est un sadique, il brûle ses enfants. Et alors à ce moment-là, ils sont retournés comme ça. Quand on fait un tableau, on sait que ce n'est pas un enfant. Je n'ai pas brûlé mes enfants, non. Je les aime trop. Mais mes tableaux, ce ne sont pas mes fils. C'est mon œuvre. Et mon œuvre, je la domine. Je ne la contemple pas. Et qu'on met devant moi un de mes tableaux que j'ai fait il y a 10 ans, j'ai envie de le refaire. C'est vrai, quand on a invité Rouault et qu'on avait, pour lui faire plaisir, mis un Rouault en face de lui, ça le mettait en colère, parce qu'il avait envie de le refaire, complètement, parce que je ne suis jamais satisfait, je ne peux pas être satisfait, c'est mon œuvre, j'essaie de faire le mieux possible. Je n'y arriverai jamais. Et un homme ne peut jamais y arriver. Et Rouault, un bon breton, voyez la différence entre eux. Quelque chose qu'il respecte. jamais à quelque chose qui puisse vous satisfaire. Il voyait trop grand, il poussait jusqu'au bout. Je crois que l'art peut être un merveilleux moyen de nous conduire à la finalité. Mais l'art ne peut pas finaliser une personne humaine. L'art peut créer un milieu de contemplation, comme la liturgie peut créer un milieu de contemplation, mais n'est pas la contemplation. La contemplation, parce qu'il est plus grand que moi, il peut m'achever, il peut me finaliser. Et en me finalisant, je peux le contempler.
Alors, la question, en fait, c'était peut-être dans l'ordre de l'amour d'amitié. Qu'est-ce qui fait qu'une personne, justement, est capable d'être un grand vivant ? Vous parliez ce matin, que vous disiez que l'amour est capable fait que je me développe pleinement. Mais qu'est-ce qui fait que, justement, je me développe pleinement ? Qu'est-ce qui me permet d'être un grand vivant ?
Vous voyez, c'est curieux, mais c'est quand même très intéressant à voir. C'est que l'amour d'amitié, avec mon ami, il se crée un certain climat de vie. L'amour d'amitié dans le mariage fait qu'il y a un foyer. Et tout foyer où il y a un véritable amour entre l'époux et l'épouse est un climat de vie. Crée un climat de vie. Et un climat de vie tel que le petit enfant peut naître et être éduqué. Un petit être fragile, un tout petit enfant, a besoin d'un climat de vie. Et c'est l'amour du père et de la mère qui crée ce climat de vie. L'art peut créer un climat de vie par les œuvres artistiques. Il suffit quelquefois d'une très belle œuvre d'art pour créer un climat. J'aime à dire que dans un couvent pauvre, il faut une chose belle. Et une chose belle suffit pour maintenir un certain climat beau, grand. Et la pauvreté dans un certain climat de vie n'est pas mauvaise, elle est bonne, surtout s'il y a une chose belle, une chose artistique belle, qui crée autour d'elle un climat. Alors ce serait très intéressant de voir comment l'amour d'amitié créer un climat affectif de vie. Comment les œuvres d'art créent un climat intellectuel, je ne dis pas rationnel. certain climat de lumière et de beauté. Ça l'aide. Quelquefois, il suffit d'un seul objet. Une seule réalité belle. Nous avons besoin, ça. Dans la vie où on le peut, c'est évident. Parce qu'hélas, ça coûte cher. Mais si on peut, un artiste vous donne quelque chose de beau. Même si ce n'est pas un très grand artiste. Pour le chrétien, je parle pour l'homme.